Monsieur Guy Arcizet, qui est le grand maître du Grand Orient de France, nous fait l'honneur maintenant de nous présenter une conférence sur la laïcité.
Bien, comme vous le savez, Gilles Kepel, qui était annoncé, s'avère empêché aujourd'hui. Et nous devons remercier très très chaleureusement Guy Arcizet d'avoir immédiatement accepté, non pas de le remplacer, personne ne remplace personne, mais de combler ce vide qui s'ouvrait devant nous tout d'un coup. Il a accepté d'entrer de jeu, nous le remercions. Et si certains parmi vous se posaient la question de savoir que vient faire le président du Grand Orient de France, le grand maître du Grand Orient de France, en conclusion, pas tout à fait, c'est Jacques Cortès bien entendu qui donnera les conclusions de ce colloque, mais à la fin de ce colloque, le simple fait que la franc-maçonnerie ait été à plusieurs reprises citée déjà hier et aujourd'hui même, en bonne ou en mauvaise part, souvent de manière neutre, suffirait déjà à justifier sa présence aujourd'hui. Mais c'est évidemment à plus d'un titre que Guy Arcizet est légitime et fondé aujourd'hui à parler de laïcité. D'abord parce qu'en tant que responsable de la principale obédience maçonnique dans notre pays, eh bien, il est un peu le dépositaire de cette grande idée de la laïcité, si tant est qu'il est vrai, même si on en parle depuis plusieurs siècles dans notre pays, hein, de ce qui allait faire advenir la laïcité en 1905, il est vrai que les francs-maçons ont joué un rôle extrêmement important. Plusieurs d'entre eux, parmi les plus illustrés, étaient donc ont porté haut l'idée de la laïcité. Je veux parler de Jules Ferry, par exemple, qui était franc-maçon, de Ferdinand Buisson, dont nous avons parlé également hier. Ferdinand Buisson, qui dans son dictionnaire de la pédagogie, dictionnaire de pédagogie, en 1887, donnait cette définition. Elle est très longue, la définition, je vous cite que le début de laïcité. Laïcité, deux points, ce mot est nouveau et n'est pas encore d'un usage général. On a appris depuis hier qu'il est d'un usage très général et très répandu, y compris de par le monde. Tout le monde aujourd'hui, je ne parle pas là de l'exemple tunisien qui vient de nous être donné, mais en France au moins, tout le monde se réclame de la laïcité. On l'a dit à plusieurs reprises depuis hier, simplement tout le monde ne donne pas la même acception. Donc, nous allons entendre Guy Arcizet sur l'acception que les francs-maçons du Grand Orient de France donnent à la laïcité. Plus près de nous, il y a Jean Zay, qui était aussi franc-maçon, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, et mort assassiné par la milice en juin 1944, qui lui, dans une circulaire justifiant la laïcité à l'école, qui doit dater de 1937, je crois, cette circulaire, demandait qu'on laisse à la porte de l'école les sujets de querelle auxquels les adultes suffisent. J'aimerais que dans certaines circulaires du ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui, on emploie ce langage-là. Et puis, Guy Arcizet nous a fait également l'amitié d'être présent dans le comité de réflexion et de proposition sur la laïcité que nous avons mis en place au Haut Conseil à l'intégration. C'est également à ce titre qu'il a participé à un séminaire de réflexion les 8 et 9 décembre dernier. Peut-être sera-t-il question dans votre intervention du 9 décembre aussi. Le 9 décembre, date anniversaire de la loi de 1905. Et donc il a participé à ce séminaire « Laïcité dans la fonction publique, de la définition du principe à son application pratique » dont les actes sont parus à la documentation française, donc sont disponibles. Pour vous, ça vient tout juste de sortir il y a à peine 8 jours. Eh bien, comme la petite présentation qui était faite dans notre dossier disait que Guy Arcizet appréciait particulièrement René Char, la poésie et René Char en particulier, René Char, grand poète et grand résistant, je voudrais rappeler ce mot de René Char écrit au cœur de la guerre, dans la résistance. Il disait « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Il voulait dire « Notre héritage, liberté, égalité, fraternité, n'est précédé d'aucun testament ». nous sommes devant notre responsabilité aux uns et aux autres dans les temps durs que sont ceux de la guerre, mais on peut peut-être aussi en dire autant concernant la laïcité, notre héritage. Nous en sommes les héritiers, sans doute le Grand Orient de France plus que d'autres encore. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Guillard Cizet, vous avez la parole.
Merci, merci de cette présentation. D'abord, vous avez de la chance. Vous êtes en contact direct avec le diable. On l'a entendu tout à l'heure. Et c'est vrai que je vais essayer de vous donner une image d'une laïcité qui est une laïcité vécue. Simplement parce que dans les 2 ans qui viennent de passer de mon mandat de grand maître du Grand Orient, j'ai été un colporteur, un voyageur de commerce de la laïcité, que ce soit sur les territoires français, de la Nouvelle-Calédonie à la Réunion, en passant évidemment par l'Hexagone, mais aussi en Équateur, à Quito, mais aussi au Togo, mais aussi au Bénin, mais aussi au Gabon, mais aussi en Serbie, mais aussi en Arménie, mais aussi en Turquie, mais aussi en Israël, où je retourne bientôt. C'est vous dire que j'ai une expérience un peu particulière de confrontation avec des sensibilités complètement différentes de la mienne, qui suis un Français normal. Un Français normal, presque, presque. Parce que ma mère était juive, mon père était chrétien, et j'ai été élevé en pays d'islam, dans le sud du Maroc, à Essaouira. Et j'ai donc une expérience de la religion très particulière, avec des parents très religieux. Et me voilà devenu maintenant le grand Satan. Alors, c'est vrai que il y a là une espèce de révolution personnelle, d'évolution personnelle, qui me permet de dire que moi, j'ai vécu vraiment la laïcité comme quelque chose d'important, et d'abord à travers mon engagement de franc-maçon. J'ai été très sensible aux dernières interventions qui viennent d'être faites, et en particulier à la nécessité de clarifier le concept. C'est quelque chose à quoi je me suis heurté, moi, sans cesse, dans les voyages que j'ai faits, et aussi à la Commission européenne, où, étant interpellé devant le BEPA, qui est le bureau des cultes à la Commission européenne, lequel, au passage, je vous le signale, est dirigé par un évêque, ce qui rend le dialogue particulièrement difficile pour moi, parfois agressif même. Donc, je me suis trouvé devant cette difficulté qui fait que le mot lui-même est dans une telle nébuleuse fantasmatique que finalement, on a du mal à pouvoir dire l'origine même de ce qui fonde l'évolution des démocraties. Et la franc-maçonnerie elle-même est née d'une manière que je vais essayer de vous dire et qui est parfaitement liée à ce moment très particulier de la naissance du monde moderne qu'est la laïcisation de la pensée. Je ne parle pas de laïcité, je parle de laïcisation, je parle d'autonomie, je parle d'appropriation d'une pensée qui est une pensée qui fonde à partir du XVIe siècle, qui se fonde à partir du XVIe siècle dans la raison critique. Quand Montaigne dit que tout homme est porteur de la totalité de l'humaine condition, que chaque homme plutôt, il ne fait pas une révolution qui est simplement une révolution sémantique, il fait une vraie révolution philosophique, parce que c'est vrai qu'au XXIe siècle, il nous paraît évident que nous pensons par nous-mêmes, mais jusqu'au XVIe siècle, on ne pensait que par le pouvoir temporel ou par le pouvoir spirituel, c'est-à-dire le roi et l'Église. Et la franc-maçonnerie, dont on peut faire finalement une histoire anecdotique à travers les loges compagnoniques, à travers tout le rituel maçonnique, à travers la fondation par des religieux réformés, surtout, la franc-maçonnerie s'est construite dans ce grand courant de laïcisation de la pensée qui va fonder les démocraties. C'est vrai que il va être repris, ce courant, par les Lumières. C'est vrai que certaines des Lumières étaient aussi francs-maçons. C'est vrai que ça va aboutir à la Révolution française, mais surtout, pour moi, à la fondation de la plus grande démocratie qui soit à l'heure actuelle, quoi qu'on pense d'ailleurs du régime politique qui la domine en ce moment, c'est-à-dire les États-Unis. Quand les francs-maçons qui écrivent la Constitution américaine l'écrivent avec des principes qui sont des principes maçonniques, fondés sur la dignité des hommes et des femmes, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils font de la politique, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils sont dans une orientation anti-religieuse, pas du tout. Ils étaient la plupart du temps religieux. Les fondateurs de la franc-maçonnerie étaient religieux et on se réclame, nous, de ce courant traditionnel, évidemment, dont on ne peut pas se couper. Sinon, à avoir une certaine stérilité, dans une certaine infécondité dans le fonctionnement de l'association. Et donc, quand les pères fondateurs des grandes démocraties fondent la démocratie aux États-Unis, ils partent des principes maçonniques et de la laïcisation de la pensée. C'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Pourquoi ? Pour dire d'abord une chose qui, à nous Français, vaut d'être répétée, c'est que la laïcité existait évidemment avant la loi de 1905. Et que cette laïcisation de la pensée qui va construire les démocraties, qui va, au début du XIXe siècle, fonder l'identité sociale des individus, ce qui d'ailleurs a été réclamé dans le printemps arabe. La plupart de ce que demandaient ceux qui se sont révoltés, c'était évidemment pas quelque chose, la destruction de leur religion, c'était pas la laïcisation, l'athéisme, que sais-je, c'était la revendication qu'ils appartenaient à une société qui devait les respecter. Et la laïcité, à l'origine, c'est ça. C'est ça. Alors évidemment, après, il y a une histoire complètement différente. Avec, pendant tout le XIXe siècle, la fondation des grandes démocraties, avec la fondation de l'identité sociale des individus, avec des institutions comme la nôtre, qui mettent la laïcité au premier plan, qui en font peut-être même une arme de combat, mais dans un contexte historique très particulier, dans lequel on n'est plus. En 1905, il s'agissait de remettre la religion catholique à sa place, parce qu'à ce moment-là, évidemment, elle essayait d'envahir le champ politique. Quand on poursuit les congrégations après 1905, c'est évidemment dans le même courant historique. On est bien loin de ça à l'heure actuelle. Et nous, nous disons en ce moment, francs-maçons, que le jour où la laïcité sera aboutie, on ne parlera plus à propos de laïcité de religion. Pour nous, laïcs, la religion est indifférente. Et on essaye justement, pour clarifier le concept, et pour pouvoir le divulguer sans lui donner la connotation républicaine française du mot laïcité, on dit que la laïcité, c'est à la fois un combat, bien sûr, c'est une éthique et c'est en même temps une spiritualité. Je vais essayer de vous le dire sur ces trois mots. Un combat, pourquoi ? C'est le combat de la liberté absolue de conscience. Et ce combat de la liberté absolue de conscience, il n'est pas gagné. Il n'est pas gagné. Quand on voit la manière dont les grands médias nous imposent l'information, quand on voit l'état de l'école dans notre société, et je ne parle ici que de la société que je connais bien, c'est-à-dire la société française, quand on voit l'état de la citoyenneté, on est quand même amené à se poser un certain nombre de questions sur la liberté absolue de penser, la liberté absolue de conscience aussi. Est-ce qu'on l'a réellement ? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine fatalité, un certain engrenage, une certaine volonté extérieure à nous qui continue, malgré l'autonomisation que nous avons essayé d'avoir depuis le début du XVIIIe siècle, qui continue à nous orienter, à nous faire penser différemment. On essaye constamment de le faire. D'ailleurs, les pouvoirs forts ont toujours essayé de récupérer la franc-maçonnerie.